l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence à Aurignac, 94.1.
Attention, les températures vont être caniculaires cet après-midi. On annonce jusqu'à 40 degrés. Donc si vous êtes une personne fragile, n'oubliez pas surtout de rester dans un endroit frais et surtout de boire, même si vous n'avez pas la sensation de soif. Voilà, en laissant passer ce petit épisode de nouveau caniculaire. On est quand même heureux de se retrouver entre 12h et 13h. Peut-être bon appétit si vous êtes à table, tranquillement, devant votre assiette. Eh bien moi, je vais vous amener dans un endroit où il théoriquement, dans les tuyaux, il fait bien frais, puisque c'est dans les centrales hydroélectriques, la CHEM, grâce à Anne-Rose Jankovic, qui est partie en immersion, visiter donc ces installations, et puis le déploiement de, vous allez apprendre la manière dont le déploiement de l'hydroélectricité a façonné la vie des familles entières dans le Luron depuis les années 1930. Voilà, reportage dans quelques instants avec notre ami Madame Jankovic, voilà. Et puis juste après, on aura l'actualité. Et puis on retrouvera une page d'histoire, puisque aujourd'hui nous aurons Philippe Lonnier qui nous propose de repartir avec le rôle de la résistance pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, avec une auteure qui avait écrit sur son père et qui avait un rôle bien particulier. C'était celui de faire passer des gens vers l'Angleterre, avec tous les dangers bien sûr que ça pouvait comporter à l'époque. Voilà pour un jour un livre, un auteur. Mais tout de suite, on retrouve notre petite Clémence Roux, qui est étudiante à l'école de journalisme pour les titres. Bonjour Clémence.
Bonjour à tous. Le procès en appel de Cédric Jubilard est reporté au premier semestre 2027 après les aveux de l'accusé et la découverte des ossements de son épouse Delphine Ossaguel. À Saint-Gaudens, le gouvernement demande un effort financier plus important pour assurer la reprise de l'usine Fibre Excellence et préserver les près de 300 emplois. À Toulouse, un centre de soins pour les enfants victimes de maltraitance ouvrira ses portes en 2027. En Aveyron, la canicule commence à freiner la fréquentation touristique, notamment pour les activités en plein air. Près de Toulouse, à Muret, un incendie a détruit 12 hectares de végétation. 3 habitations ont été protégées et une enquête est en cours. Enfin, le village de François ouvre demain sa session d'été à Bellegarde-Sainte-Marie, près de Toulouse, avec 4 jours de conférences, de prières et de concerts. Voilà pour les titres de l'actualité.
Merci beaucoup Clémence Roux, étudiante à l'école de journalisme à Toulouse, et qu'on retrouvera tout à l'heure à 12h30 pour le journal de la mi-journée. Mais pour l'heure, je vous propose de partir du côté du Val-Louron, grâce à notre journaliste, Madame Jankovic, Anne-Rose, bien sûr, et qui va nous parler, eh bien, de la CHEM.
Présence à Ax-les-Thermes, 92.7.
Mon reportage commence au lieu-dit de Pont-de-Prat à Loudenvielle, dans la vallée du Louron. C'est là qu'un petit groupe de touristes s'apprête à partir en randonnée jusqu'au refuge de la Soula, une randonnée qui n'est pas comme les autres puisqu'elle permet de découvrir le patrimoine industriel de la vallée avec l'ensemble du réseau d'hydroélectricité de la CHEM. L'hydroélectricité dans les Pyrénées, c'est une histoire vieille de 100 ans. C'est un certain Jean-Raoul Paul qui en est à l'origine. Et dans ce premier volet de reportage, eh bien, je vous propose de découvrir comment, au-delà du chantier technique, l'installation et le déploiement du réseau hydroélectrique a représenté une véritable prouesse sociale. Cécile Delomone est conférencière pour le label Pays, Art et Histoire. Elle connaît cette histoire par cœur. C'est elle qui accueille les randonneurs curieux et qui leur explique.
Turbine, ah, on va en voir une là-haut, c'est des roupelton. C'est comme des roues de moulin. D'ailleurs, on verra une roue de moulin et vous allez voir la similitude. Turbine alternateur, transformateur, injecté sur les lignes. L'eau, elle arrive par ces gros tuyaux. Donc, la plus grosse conduite forcée, c'est la première construite. Donc, vous avez vu les photos tout à l'heure. Hein, voilà comment on va les transporter. Les conduites, voilà, on les assemble. Hein, c'est tout riveté, tout fait à la main. C'était quand même un sacré boulot. Et elles vont être doublées dans les années 50. Voilà, donc on a ces deux conduites que vous voyez là-haut. Pour accéder à tous les étages du chantier et tous les étages de production, on a ces téléphériques qui vont être donc construits et mis en activité dès 1930. Ça, c'est une société allemande qui paye dans la dette de guerre ces téléphériques. Alors, on a gardé les pylônes hein, d'origine. Regardez, je ne dis pas de bêtises, c'est vraiment le même qu'à l'origine. Mais évidemment qu'on a changé les poulies, les cabines et les câbles, parce que sinon ce ne serait plus aux normes de sécurité. Mais ça permet, alors vous avez le premier qui arrive à 100 têtes où vous allez passer hein, tout à l'heure, un deuxième qui arrive jusqu'à la centrale de la Soula, et un troisième qui arrive en dessous le barrage de Kayawas. Ça a permis de transporter les hommes et le matériel. Il n'empêche, voilà comment on transportait le matériel par exemple. Et après, on a toujours eu des petites cabines. Et les cabines, au départ, aujourd'hui, vous allez voir, c'est une jolie petite cabine métallique, mais bien fermée. Mais au départ, comme on transportait autant de matériel, matériaux que d'êtres humains, en fait, c'est des plateformes. Et quand on mettait des êtres humains dessus, on mettait des plaques métalliques tout autour pour sécuriser. Quand on va avoir les agents qui vont commencer à habiter à la Soula, donc ils ont des appartements, c'est là où vous avez le refuge aujourd'hui, et ils amènent leurs femmes et leurs enfants. Et les femmes, elles descendent souvent, et les enfants aussi, parce qu'il faut les scolariser. Et on verra que dès 1938, ils ouvrent une école sur site. Hein. Et ben, ils prenaient le téléphérique aussi. Alors, quand ils arrivaient là-haut, il fallait changer de téléphérique. Et là, ce sont juste des plateformes et il fallait sauter au-dessus du vide pour passer d'une plateforme à l'autre. Donc, comme il y avait quand même quelques femmes qui avaient le vertige, les enfants pas trop. Hein. On leur avait installé après une grille métallique. Et puis, comme ces plaques métalliques de l'espèce de cabine, là, de la nacelle, étaient amovibles, ça faisait une prise au vent. Et quand il y avait trop de vent, ben, ça faisait trop balancer la nacelle. Donc, on ôtait les plaques métalliques et le transport des êtres humains, donc femmes et enfants, qui descendait quasiment tous les jours, dans ces nacelles qui bougeaient, mais sans rien pour occulter la vue. Donc vous imaginez la grande impression que ça devait leur faire. Mais après, on s'habitue à tout, donc les gens s'habituaient à ça aussi. C'était vraiment l'élément le plus révolutionnaire de la construction et pour faire tourner la centrale que la mise en place de ce téléphérique. Alors il faut savoir qu'ils en ont par la suite. Toutes les centrales qu'ils ont en montagne, ils ont construit des téléphériques. Artus, on le prend quand on va faire le petit train. On a le télécabine qui part de Fabrège. Au départ, c'était un téléphérique de service. Et le petit train, c'était un petit train de service. Hein, voilà. L'autre élément important, c'est garder les agents. Au moment de la construction, ils s'étaient déjà rendu compte que prendre les paysans du coin, c'était bien parce qu'ils connaissaient bien le territoire. Le problème du paysan, c'est que le matin, il s'occupe de ses vaches. Le soir, il s'occupe de ses vaches. L'été, il faut faire les foins. Et en fait, il arrive en retard tous les jours. Et puis, il s'en va et il revient pas quand c'est la période des travaux agricoles. Donc, sur les chantiers, on arrivait à compenser parce qu'il y avait quand même beaucoup de main-d'œuvre qui cheminait à droite à gauche. Mais quand on veut faire tourner l'usine, il faut que les agents ils soient là constamment. Donc très vite, comme dans toutes les usines de ce début de XXe siècle, on va faire en sorte que les ouvriers s'y sentent bien et n'aient pas envie d'aller travailler ailleurs. Donc on leur offre un confort qu'ils n'auraient pas ailleurs et on va construire la cité ouvrière. Donc on a trois blocs comme celui-ci. Celui-ci, c'est le plus grand. La petite maison là-bas, qui était la maison de l'ingénieur, donc du directeur de groupement. Et puis après, il y a des garages et des bâtiments de service. Et on va voir là-haut le foyer, qui arrivera plus tard, mais qui va être un lieu de socialisation pour toutes les familles qui vivaient là. Les salaires étaient aussi beaucoup plus attractifs qu'ailleurs, mais par contre, comme rien n'était automatisé jusqu'à la fin des années 60, il y avait des astreintes assez lourdes, et c'est aussi pour ça qu'il fallait du monde qui vive là-haut, quoi. Hein. À partir de 68, ce sera automatisé sur la Soula, donc tous les agents redescendront ici, puis après ça sera automatisé ici. Aujourd'hui, on a des agents que quand ils sont d'astreinte. Donc les trois quarts des appartements sont inoccupés aujourd'hui.
Des familles vivaient donc là, au pont de Prat, à 1300 mètres d'altitude et même encore plus haut, à la Soula. Alors très vite, la HEM a compris que pour garder les ouvriers, il fallait installer dans ces lieux bucoliques l'été, mais quand même un peu rude l'hiver, un minimum de confort pour les femmes et les enfants notamment, mais pas seulement. Par confort, comprendre logement décent, services, école, mais aussi lieu de détente, et c'est précisément pour cela que le foyer a été créé.
Donc trois immeubles pour loger le personnel. À partir de 1938, comme c'est quasi impossible de descendre tous les jours à Loudenvielle, il y a 9 km, et l'hiver, ils ont beau avoir des chenilles pour déneiger, ça, ils n'ont pas que ça à faire, et surtout il y a des avalanches, donc la route est souvent coupée. Donc la HEM va avoir l'autorisation d'avoir un instituteur ou une institutrice. Il y a assez d'enfants pour avoir une école, et l'école, elle va fermer 82-83. Voilà, c'est pas si vieux que ça. Il y a encore des gens relativement jeunes qui se souviennent d'avoir été à l'école primaire ici. Alors le primaire, c'est vraiment que du CP jusqu'au CM2. Pas besoin de maternelle, puisque les mères, elles sont là. Et elles ne travaillent pas. Elles s'occupent de leurs enfants, donc. Alors parfois, les journées pouvaient paraître un peu longues. Donc la HEM pense à tout. À chaque appartement, il y a un jardin. Alors vous allez me dire, à 1200 mètres d'altitude, dans un endroit où il n'y a pas de soleil l'hiver, et que l'hiver est long, elle faisait pas pousser grand-chose, mais dès le mois de mars, elles peuvent se mettre à jardiner. Et toutes celles qui s'en souviennent racontent, on arrivait quand même à faire pousser des fraises, des petits fruits et des légumes qui suffisaient à nourrir un peu la famille. Après, tous les matins, il y avait un employé, un agent de la HEM qui avait le permis, sauf évidemment quand il y avait trop de neige, hein, qui passait dans les appartements et qui prenait commande de ce dont on avait besoin. Comme il devait descendre les plus grands enfants au collège à Arreau, il allait à la gare où la HEM avait une espèce de coppe roulante sur train qui leur permettait d'avoir l'épicerie à bon prix. Le jeudi, le même agent, dans une camionnette, descendait toutes ces femmes au marché à Arreau. Et puis, elles avaient créé des groupes de couture, des groupes de chant et tout. Mais il leur manquait une salle commune. Elles allaient un coucher l'une, un coucher l'autre. Et c'est comme ça que, au milieu des années 60, on va leur construire ce foyer qui va être le lieu où les femmes, les enfants vont se retrouver dans la journée. Et puis, vous voyez, ça fait comme un bar, hein. Donc, quand ils avaient fini leur travail, les hommes venaient les rejoindre. Et ça va devenir un lieu très emblématique, parce que les enfants vont se mettre avec l'instituteur ou l'institutrice à produire des spectacles. Alors le spectacle de fin d'année, mais là c'était vraiment de fin d'année, on le donnait pour Noël. Et le spectacle était tellement de grande qualité, alors théâtre, chant, danse, tout ce qu'on voulait, que les directeurs venaient de Toulouse pour assister au spectacle de la HEM du Pont de Prat, et ceux de la centrale des Jettes venaient passer aussi la soirée de Noël pour voir le spectacle. Et comme ça, il y avait tout un esprit de corporation aussi, on était fiers de travailler pour la HEM et on était fiers de vivre ici. Et il y en a qui nous ont raconté, l'hiver, il n'y a pas de soleil ici. Et on sait que pour les enfants en bas âge, c'est pas très bon. Notamment, il y a un manque de vitamine D, donc pour le développement, c'est pas bon. Et l'instituteur ou l'institutrice était sommé, en dehors des jours d'avalanche, de descendre les enfants au soleil. Donc, ils descendaient jusqu'à Artiguelongue. Ça fait quand même une trotte. Et là, ils allaient jouer pendant une heure ou deux dehors, qu'il fasse chaud ou froid, hein, pour pouvoir s'emplir de soleil. On ferait ça aujourd'hui, je sais pas si les parents seraient d'accord. Mais c'était une autre façon de vivre. Et autant pour les enfants que pour les instits, c'était un monde à part, mais c'était presque un monde privilégié, quoi, hein. Chacun en a gardé de bons souvenirs. Donc, ils allaient à pied, oui. Tout se faisait à pied. Et ils ont appris à skier. Alors, il fallait que ce soit un instituteur quand même qui soit bien fait, hein. On mettait pas quelqu'un de la ville ici. On mettait pas quelqu'un de la plaine non plus, parce que ils apprenaient à skier. Ils faisaient de la randonnée. Je pense qu'ils connaissaient toute la faune, la flore. Voilà, c'était... Et puis, c'était une classe unique. Donc, tout le monde révisait 50 fois la même chose. Il y avait une entraide qu'on trouve plus maintenant. Alors, dans les années 60, qui était quand même la période où il y avait le plus de monde, c'était... beaucoup moins. C'était 5-6 agents là-haut, avec femmes et enfants. Et ici, une quinzaine d'agents. C'était au total entre 20 et 30 agents. Donc, vous, avec les familles. Et ça pouvait aller, je pense, jusqu'à une vingtaine d'enfants, quoi.
Les enfants
descendaient avec le téléphérique tous les jours pour aller à l'école ici. Ah, c'était une autre vie, hein. Il n'y avait pas de cantine non plus, donc on mangeait les uns chez les autres. Mais c'était sympa.
Allez, bien au point sur l'histoire de l'hydroélectricité. Nous prenons la route pour de bon cette fois-ci avec notre guide Francis. Et après un peu plus de 500 mètres de dénivelé et quelques pauses... Bonjour Analia.
Bonjour. Alors ici, nous sommes au refuge de la Soula, dans la vallée du Louron, dans les Hautes-Pyrénées.
Et vous êtes la gardienne de ce refuge, Analia.
Oui, c'est ça.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer depuis quand vous êtes là et comment une jeune femme comme vous est arrivée ici pour s'occuper d'un lieu comme celui-ci qui est quand même assez atypique?
Alors oui, moi je suis là depuis le mois de mai. Donc j'ai ouvert le 22 mai et je suis arrivée là parce que il y a eu un appel d'offres pour le refuge de la Soula qui cherchait un gardien, et du coup j'ai candidaté cet hiver et j'ai été sélectionnée pour être la gardienne de ces lieux.
Avant vous faisiez quoi ?
Ça faisait plusieurs années que j'étais aide-gardienne en refuge. Donc moi ça va faire 6 ans que je travaille en refuge, été et hiver. Et avant ça, je travaillais dans le social.
Voilà. Alors ici, du social, vous en faites un peu parce que vous voyez du monde, en tous les cas, tout l'été.
Alors oui, il y a des jours où il y a plus de passages que d'autres, c'est certain. Selon la météo, selon les conditions, s'il fait chaud, il y a un peu moins de monde qui monte. À tort, puisqu'en montagne, il fait bon quand même, en altitude. Et donc oui, on a du passage le midi, on a du passage aussi le soir, puisqu'on fait aussi de l'hébergement. Donc le soir, il y a des randonneurs qui sont plutôt en itinérance, qui viennent dormir, ou tout simplement des familles aussi qui découvrent la montagne avec une nuit en refuge. Donc c'est très sympa aussi le soir.
Voilà, il faut dire que alors il y a quand même 500 mètres de dénivelé depuis le pont de Prat pour venir jusqu'au refuge de la Soula, mais le chemin est enlacé et c'est assez accessible pour des familles avec des enfants.
Oui, tout à fait. Oui, le chemin il a l'avantage d'être assez accessible. Voilà, on a deux types de chemins pour monter à la Soula. Il y a un sentier qui est plutôt raide, qui permet de monter plus rapidement, on va dire, avec un petit effort. Et il y a un sentier qui est fait en lacet, où là, vraiment, c'est très tranquille. En 2 heures maximum, on est ici, quoi.
Vous avez une capacité d'accueil de combien de personnes ?
Alors, on a 50 lits. Après, on est une petite équipe, donc on fait comme on peut. Mais si on peut, on le fait.
Ouais, vous n'êtes pas seule ici, Analia ?
Non. J'ai deux aides-gardiennes qui m'aident à garder le refuge. Et voilà, un refuge, ça ne marcherait pas sans équipe.
Alors, il y a plusieurs questions derrière ça. Pour que ça marche, il faut du ravitaillement. On imagine que vous n'allez pas chercher le ravitaillement tous les jours à pied avec votre petit sac à dos. Comment ça se passe de ce côté-là ?
Alors non, c'est certain. On ne descend pas chercher des choses dans le sac à dos tous les jours, même si ça nous arrive de le faire pour dépanner quand on a besoin. Donc ça arrive jusqu'ici avec en gros avec un héliportage. Donc on monte les courses en hélico. On a fait un gros hélico de ravitaillement en début de saison et là j'en refais un la semaine prochaine. Et après pour les petits ravitaillements d'appoint, ça nous arrive de faire des portages pédestres.
Alors c'est ça aussi, être gardienne de refuge, il faut penser à tout ça. Il y a une gestion qui est importante, on entend bien. Pour vous, c'est quoi les qualités principales qu'il faut pour se lancer comme vous l'avez fait, pour dire allez, je deviens gardienne de refuge de ce lieu assez emblématique en plus, puisqu'il est dans notre patrimoine industriel. Quelles sont les qualités qui font que vous allez tenir à l'Alia?
Ben les qualités, je dirais, pour moi, c'est quand même d'être suffisamment dans l'accueil de l'humain, d'être organisé. Et c'est sûr que ça demande plein de qualités et d'avoir aussi en tout cas de pouvoir avoir plusieurs casquettes, parce qu'on fait tout, hein. On fait de l'accueil, on fait du ménage, de la restauration, mais aussi de la maintenance. On doit savoir un peu toucher à tout, en tout cas. Mais les qualités principales, oui, c'est déjà aimer l'humain et puis se faire plaisir en cuisinant, en pâtissant et avoir aussi des connaissances un petit peu du milieu montagnard, quoi.
Voilà. Et ça, vous les avez acquises déjà avec les expériences passées. Vous êtes là jusqu'à quand? Le refuge est ouvert jusqu'à quand?
Alors, le refuge est ouvert jusqu'au mois d'octobre, sur réservation, jusqu'au 18 octobre. Il y a des objectifs, mais moi, mon objectif principal, c'est que les gens soient contents. C'est OK. Et de toute façon, les objectifs de fréquentation, ils seront là à la fin de la saison.
Dans ce lieu, avant que vous arriviez, il y avait une autre équipe avant vous?
Alors oui, mon prédécesseur, le gardien, il a fait 15 ans ici. Il est resté 15 ans en tant que gardien.
Vous voyez, vous, 15 ans ici?
Bah pourquoi pas, ouais, ah ouais, carrément.
Ça c'est bon signe, ça veut dire que la saison a bien démarré.
Oui, l'idée c'est de tout faire pour rester longtemps et de prendre plaisir à faire ce métier ici, sur ce site qui est quand même assez exceptionnel, même qu'il soit bien particulier. En tout cas, moi je me plais bien ici et ouais, l'idée c'est de faire le plus de temps possible à la Soula.
Petite question maintenant logistique pour terminer. Pour réserver, comment ça se passe? Il faut vous téléphoner, il faut vous envoyer un mail, il n'y a pas de réseau ici. Alors comment on fait pour vous joindre, Analia?
Alors on a le téléphone ici, même s'il n'y a pas de réseau, nous on passe par satellite. Mais toutes les réservations se font en ligne sur le site du refuge, donc refugedelasoula.com. Et vous avez toutes les infos sur notre site internet.
Merci beaucoup, Analia. Bonne saison ici au refuge de la Soula.
Merci à vous, à bientôt.
Voilà pour cette première journée de reportage en immersion dans le Louron. Aujourd'hui, on prend plaisir à se promener jusqu'à la Soula et bien au-delà. Mais dorénavant, vous n'emprunterez plus le chemin sans penser à ces familles qui ont vécu ici et dont les habitants du Louron transmettent encore l'histoire et la mémoire.
Ouais, très beau reportage signé Anne-Rose Jankovic. C'est promis, Anne-Rose, on ne regardera plus le chemin de la même façon. Ça, c'est clair. Merci à vous. Puis on vous retrouve bien sûr très prochainement pour continuer à vous suivre dans votre petit périple. Dans quelques instants, on partira pour le Pays Basque avec un jour un livre en auteur. Nous aurons Annie Olazabal. Bien sûr, son nom, vous l'avez compris, est basque. Et elle nous parlera de son père, de ses parents, qui était passeur pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et son papa, en toute clandestinité, faisait passer des gens en Angleterre, avec bien sûr tout le danger que ça représente. Dans quelques instants, c'est le retour de l'actualité, mais pour l'heure, on écoute Michel Fugain. Une belle histoire sur Présence.
C'est un beau roman, c'est belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard. Elle descendait dans le midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin sur l'autoroute des vacances.
C'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Ils se sont cachés dans un champ de blé, se laissant porter par le courant. Se sont racontés leur vie qui commençait. Ils n'étaient encore que des enfants qui s'étaient trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance, qui cueillirent le ciel au creux de leurs mains, comme on cueille la Providence, refusant de penser au lendemain. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi.
Le midi, ils se sont quittés au bord du matin.
Sur l'autoroute des vacances, c'était fini le jour de chance.
Ils reprirent alors chacun leur chemin,
saluèrent la Providence en se faisant un signe de la main.
Il rentra chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle est descendue là-bas dans le...
Voilà, une belle histoire à l'instant avec, vous avez sûrement reconnu la voix de Michel Fugain sur Présence. Il est l'heure de retrouver un point d'information avec notre correspondante.
Radio Présence à Auch, 89.6.
Et même notre étudiante en journalisme, on retrouve Clémence Roux pour l'actu à la mi-journée. Bonjour Clémence.
Bonjour à tous. Dans l'actualité régionale, le procès en appel de Cédric Jubilard est reporté. Initialement prévu en septembre prochain, il n'aura finalement pas lieu avant le premier semestre 2027. Cette décision fait suite aux aveux de l'accusé et à la découverte des ossements de son épouse, Delphine Ossagel, disparue en décembre 2020. Économie ensuite, le ministre de l'économie Éric Lombard juge insuffisant l'investissement de 5 millions d'euros annoncé par l'homme d'affaires Mathieu Pigasse pour soutenir la reprise de l'usine Fibre Excellence à Saint-Gaudens. Le gouvernement attend un engagement financier plus important afin de sécuriser l'avenir du site placé en redressement judiciaire et de ses près de 300 salariés. Toulouse accueillera en 2027 l'un des 7 nouveaux centres de soins dédiés aux enfants victimes de maltraitance. Ces structures proposeront une prise en charge médicale, psychologique et judiciaire afin d'améliorer l'accompagnement des jeunes victimes dont l'espérance de vie est peut-être réduite de près de 20 ans selon les spécialistes. En Aveyron, la canicule pèse sur le début de la saison touristique. Les professionnels très dépendants de la météo constatent une baisse de fréquentation, notamment dans les activités de plein air, tandis que les visiteurs privilégient les sites plus frais. Près de Toulouse à Muret, un nouvel incendie a parcouru 12 hectares de végétation. Grâce à l'intervention rapide des pompiers, 3 habitations ont pu être protégées des flammes. Une enquête est ouverte pour déterminer l'origine du feu. Enfin, le village de François organise sa session d'été à partir de demain jusqu'à dimanche à l'abbaye Sainte-Marie du Désert à Bellegarde-Sainte-Marie, près de Toulouse. Ouverte à tous, cette rencontre sera rythmée par des conférences, des temps de prière, des célébrations et des concerts. Le thème retenu cette année est « Demeurer en mon amour », tiré de l'évangile selon saint Jean.
Allez, merci beaucoup Clémence Roux, voilà pour l'information à la mi-journée. On va partir dans l'histoire tout de suite avec un jour, un livre, un auteur, Philippe Nouni, Diego Rabal. On part pour le Pays Basque et on va parler de la Deuxième Guerre mondiale, où vous allez entendre que le papa de l'auteur que nous recevons aujourd'hui était tout simplement passeur, où il faisait passer donc des gens vers l'Angleterre.
Présence à Mirande 104.2.
Un jour, un livre, un auteur, Philippe Noni, Diego Arabal, Philippe Subercase.
Et c'est toujours un grand plaisir de retrouver le duo choc, Philippe Noni, Diego Arabal, pour Un jour, un livre, un auteur. On va se glorifier. On peut dire que votre chronique littéraire, messieurs, eh bien, c'est pas une chronique littéraire, qui est pénible à écouter. Au contraire, vous faites vivre les livres.
On fait vivre des livres.
Oui, tout à fait. Philippe, on essaye.
Bonjour Diego.
Voilà, bonjour Philippe.
On va y arriver.
Cette fois-ci, c'est Diego Arabal.
Mais c'est comme ça, ça arrive. On a des livres, effectivement, comme vous dites, avec des thèmes extrêmement différents. Et aujourd'hui, on va parler quand même d'un thème qui s'est déroulé ici, qui va parler de ces êtres d'exception que parfois l'histoire a négligemment oubliés dans les plis de sa mémoire. L'homme dont nous allons parler maintenant en fait partie. Dans une période aussi troublée que troublante que fut l'occupation dans notre pays, cette personne a conservé sa boussole orientée vers la lumière. Comme bien d'autres, ce passeur a permis à des êtres en quête de liberté de rejoindre le général de Gaulle à Londres ou de mettre en sécurité des gens qui avaient simplement le tort d'être juifs. Pour mettre en exergue cet homme et rappeler combien lui doivent la vie, nous allons recevoir sa fille qui a écrit ce récit, le passeur, ce héros de la résistance qui a conduit 953 personnes en Espagne, publié aux éditions Confident. Bonjour Annie Olazabal.
Bonjour à vous tous, merci de me recevoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation sur les ondes de présence pour évoquer avec nous l'histoire singulière de votre père, donc qui s'appelait Michel Olazabal, qui fut résistant dans les Pyrénées-Atlantiques durant la Seconde Guerre mondiale. Je vais lire la quatrième de couverture de votre récit et on en parle après.
D'accord.
Cet homme, Michel Olazabal, est un héros. Grâce à lui, 953 personnes ont pu, entre mars et juin 1943, fuir la France occupée pour passer en Espagne. Des pilotes alliés, des agents de renseignement, des juifs, des antifascistes allemands, des réfractaires du SETO, le service du travail obligatoire, des hommes et des femmes, parfois des familles avec enfants, qui tous ont pu franchir les Pyrénées au terme de marches aussi éprouvantes que dangereuses. Jusqu'à ce jour de juin 1943, où des Français collaborateurs enrôlés dans une unité militaire allemande ont intercepté un des groupes convoyés par Michel. Brûlé, celui-ci a dû passer en Espagne à son tour, d'où il a continué de travailler pour les services secrets français. Cet homme est un héros, et pourtant, cet homme dut porter jusqu'à sa mort le poids du plus terrible des soupçons, celui d'avoir trahi ce qu'il emmenait avec lui vers la liberté. Annie Olazabal, vous êtes la fille donc de Michel Olazabal, donc qui était passeur durant la Seconde Guerre mondiale. Comment avez-vous découvert l'histoire de ce père que vous ignoriez en partie durant votre enfance et votre adolescence ?
Eh bien, effectivement, je suis la troisième d'une fratrie de 11 enfants. Et j'ai grandi dans cette famille sans jamais rien savoir. Et le 11 novembre 1983, alors que je suis au travail... Alors d'abord, il faut que je dise que mon père est décédé en 1982, le 11 septembre. Et le 11 novembre 1983, je suis au travail et mon frère m'appelle... un de mes frères m'appelle en pleurs, il sanglote et il me dit « Papa est sur le journal ».« Papa est sur le journal, mais qu'est-ce que tu racontes, papa ? Il est mort, papa ». Et je lui dis « tu es malade, où es-tu ? Je suis à la cabine, puisqu'on est en 1983 ». Et il me dit « il y a des photos de lui sur le journal et il y a deux pages ». Donc, effectivement, je me procure quelques minutes après le journal Sud-Ouest. Effectivement, je découvre des photos de mon père sur deux pages et le récit d'une résistante, Paul Lippmann, qui raconte sa vie de résistante et qui raconte qu'elle a travaillé avec Michel Olazabal, dont elle donne les photos, et trois frères basques. c'est comme ça que nous découvrons en famille que mon père était non seulement résistant, mais aussi passeur.
Comment vous expliquez, Annie Olazabal, qu'il y ait eu cette chape de plomb, ce silence, et que derrière, effectivement, ben, ça vous a amené à écrire ce livre, Le Passeur, aux éditions Confident, avec ce bandeau sur votre livre, ce héros de la résistance qui a conduit 953 personnes en Espagne. C'est pas une paille. Comment vous l'expliquez, ça?
Alors, je crois que l'explication, elle est dans le nœud du livre, c'est l'affaire de Barcus. Parce que maman, quand on découvre que mon père était passeur, est encore vivante. Donc nous allons le soir même la questionner. Et elle se ferme et elle dit oui, il passait déjà en Espagne, mais c'était pendant la guerre. Oui, mais quand même, laissez tout ça, on en a assez souffert, ça va. Et plus on insiste et plus elle se ferme. Mais il faut que je dise que la dernière phrase sur cet article de journal, sur ces deux pages, nous harponne un petit peu, surtout le dernier mot. Paul Lippmann, cette résistante qui raconte, dit « Il se souviendra longtemps de sa dernière randonnée la plus cruelle ». Et ce mot « cruel » veut dire quelque chose. Nous questionnons maman, mais qu'est-ce qu'elle veut dire, Paul, quand elle dit « cruel » Qu'est-ce que c'est? Et là, maman pleure. Donc, on n'insiste pas et on décide en famille d'aller chercher. Surtout accompagnée d'une de mes sœurs qui a un an et demi de plus que moi, nous allons chercher. On va un petit peu aux archives, mais on ne sait pas s'y prendre, on ne sait pas chercher. Et je me souviens que mon père avait un ami qui était, lui, résistant. Mais enfant, ça c'est un souvenir d'enfance, mais enfant, je ne savais pas ce qu'était qu'un résistant. Ça aurait pu être un métier, une nationalité, je ne sais pas, mais je sais qu'il était résistant et qu'il s'appelait Mazou. Donc, on est 40 ans après, en 83, et on se dit peut-être que ce Mazou, on pourrait le retrouver s'il est encore vivant. En 83, nous n'avons pas, comme maintenant, Internet, et on se partage la tâche, les uns font billère, peau, tarbe, bon voilà, et on cherche sur le bottin avec notre petit doigt, on se fait des grandes listes de mazou et on appelle. Et là, à la question, est-ce que c'est vous qui avez connu Michel Olazabal, là, tout le monde nous dit non, pas nous, pas ma famille. Et à un moment donné, je trouve un mazou sur billère qui me dit « Oh, mon ami Michel, j'ai vu il y a 3 semaines 2 pages sur le journal, mais enfin on le met à l'honneur. » Et là, il comprend notre étonnement et je lui dis « Mais nous ne savions rien et maman ne veut pas raconter. » « Comment ? Il ne vous a pas raconté ? » Mais moi, j'étais un de ces chefs de réseau. Je vais vous dire tout ce que je sais.
Et vous commencez ce travail, et alors vous en parlez, hein, je vais lire en page 19 de votre ouvrage, donc Annie Olazabal, Le Passeur, donc aux éditions Confident, ce que vous écrivez. « Je manque un peu de courage. Ma démarche est gonflée. Je me présente comme une journaliste de la République des Pyrénées. Nous n'avons pas l'accent basque. Mais ces habitants de Barcus répondent à mes questions. » Il raconte ce jour du 23 juin 1943 quand le jeune fils de la ferme a été tué et une trentaine de personnes relativement jeunes ont été arrêtées par une unité allemande. Des Allemands qui, au dire des villageois, parlaient tous français. À ce moment-là, nous ne comprenons pas trop et nous pensons à la milice. J'ose aborder la possible responsabilité du passeur. Au moment des faits, la question s'était posée, disent-ils, mais à présent, personne n'y songe. On a compris que Michel, qui revenait avec un autre groupe, avait été prévenu à temps par la ferme en amont et qu'il avait pu faire demi-tour et sauver ainsi le deuxième groupe. Les soupçons sont alors retombés assez vite, mais peut-être pas pour tous. Le patron du café nous indique la maison d'une femme qui a vécu de très près ce drame. Elle était proche de la famille qui a perdu son enfant. Lui rendons visite. Elle nous raconte ce qu'elle sait, nous confirme qu'un relent de suspicion envers Michel a plané longtemps dans certains esprits. Elle nous incite à rendre visite à Marie Lagune, la sœur du jeune homme, il s'appelait Jean-Pierre, assassiné en juin 1943. Nous nous présentons à la ferme, toujours en journaliste bien sûr. Marie était très jeune à l'époque, même pas 15 ans, mais elle se souvient très bien. Ce drame est imprimé à jamais dans sa mémoire. Question à Niel Ouzabal, là, quand je lis donc en page 19 et en page 20 donc, de votre récit Le Passeur aux éditions Confident, est-ce que vous pensez que, à travers ce que vous dites là, c'est la raison pour laquelle votre papa ne vous a jamais parlé de ses activités de passeur, parce qu'il pensait qu'à un moment donné, on aurait pu le mettre en cause et il n'aurait pas supporté que vous puissiez avoir l'image d'un père qui aurait pu trahir, ce qui n'est pas le cas quand, dans ce que vous racontez dans votre livre. Est-ce que vous pensez que c'est la raison pour laquelle votre père et votre mère ne vous ont jamais communiqué ce récit jusqu'à cet article du Sud-Ouest ?
Oui, c'est certainement, au départ, la première raison. Certainement. Mais il y a aussi le caractère de mon père, et bien sûr de ma mère, puisqu'on le découvre dans le livre, qu'il devait penser qu'il avait fait ce qu'il avait à faire. D'ailleurs, c'est les mots de ma mère. Mais pourquoi parler de ça? On a fait notre devoir. Il fallait, nous étions bien obligés, vous l'auriez fait. Et ça revient dans son récit. Donc, je pense que mon père a porté cette douleur toute sa vie, puisque nous trouverons, en 79, nous trouverons une lettre, enfin le carbone d'une lettre, qu'il écrit à quelqu'un, qu'il appelle messieurs, donc ça doit être un organisme, mais nous n'avons pas, bien évidemment, les noms des destinataires. Et il dit, je chercherai 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, mais je trouverai. Donc cet homme-là, toute sa vie, tout seul, il a cherché. C'est dommage qu'il ne se soit pas fait aider par quelqu'un, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais il a porté certainement ce voile, ce soupçon. Ma mère n'a jamais douté, mais ma mère étant native de Barcus, enfin Ordiap exactement, elle avait ses sœurs qui vivaient, ses nombreuses sœurs qui vivaient tout autour, qui étaient mariées ou qui travaillaient autour, qui lui avaient dit, surtout ne reviens pas à Barcus, hein, parce que là ça parle trop, on a été interrogé, on a eu trop peur. Et ma mère passera 40 ans sans revenir dans son village de Barcus.
C'est terrible. Hein. Alors pour les personnes qui prennent cette interview en cours de route, hein, on rappelle que nous recevons Niel Ouzabal pour son récit Le Passeur, ce héros de la résistance qui a conduit 953 personnes en Espagne aux éditions Confident. Je vais lire un passage en page 103 justement quand vous en parlez, quand votre papa donc est contraint de quitter la France, hein, c'est en page 103 de votre ouvrage, oui. Vous écrivez donc au chapitre 3 « L'Espagne pour Michel ». Le 8 juillet 1943, après tant d'autres avant lui, Michel franchit la frontière. Il sait ce qu'il attend. Une période plus ou moins longue et pénible de détention, mais il n'a pas le choix. Le pays de Franco n'est pas une terre amie. L'occupation de la zone libre par les Allemands en novembre 1942 a provoqué l'exil de nombreux jeunes Français désireux de rejoindre l'Afrique du Nord pour fuir le service du travail obligatoire et reprendre le combat contre l'occupant. En janvier 1943, 3000 de nos compatriotes sont déjà en Espagne. 23000 vont suivre en 18 mois. L'ambassadeur à Madrid, François Pietri, fidèle au gouvernement de Vichy, a obtenu que ces hommes ne soient pas refoulés et remis aux Allemands, mais simplement internés. Le soin de s'occuper d'eux échoit à Monseigneur Boyer-Mas, prélat du pape, attaché culturel et chapelain de l'ambassade de France, délégué de la Croix-Rouge en Espagne. Celui-ci agit sous les ordres du colonel Malaise, qui représente les autorités d'Alger depuis décembre 1942. En février 1943, Boyemas obtient les premières libérations de Français internés. Le mois suivant, rallié officiellement au général Giraud, il s'installe dans les locaux de la mission officieuse d'Alger, Calier-San-Bernardo. Les premiers départs massifs vers l'Afrique du Nord ont lieu à partir de mai 1943. En juillet, 1200 Français embarquent. La durée des séjours dans les camps des prisons espagnoles va baisser de façon spectaculaire. Le dernier rapatriement massif aura lieu en juin, en août 1944. 410 évadés de France embarquent sur un paquebot depuis Gibraltar, dont certains ont franchi la frontière à peine. 5 jours plus tôt. Pour votre père, là, et pour votre mère aussi, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est une période très douloureuse. Elle ne sait pas où est son mari. Il n'y a pas d'internet à l'époque. Elle ne peut pas communiquer avec lui. Elle ne sait pas s'il est vivant. Elle ne sait pas si, il est mort. Elle ne sait pas s'il a été effectivement donc interné ou quoi que ce soit.
Oui.
Est-ce que vous pensez que c'est une des raisons aussi pour laquelle votre mère n'en a pas parlé? Parce que pour elle, ça a dû être une souffrance terrible. C'est-à-dire qu'elle avait déjà des enfants. Elle devait effectivement s'en occuper, sans savoir si son mari, effectivement, était encore là. Comment vous avez pris, vous, le fait que votre maman, à un moment donné, ait refusé d'en parler? Est-ce que vous pensez que la souffrance qu'elle a ressentie durant cette guerre ait pu, à un moment donné, être une des raisons pour lesquelles elle n'a pas voulu, effectivement, évoquer ça avec vos enfants et qu'elle s'est fermée un peu comme une huître quand vous lui en avez parlé?
Oui, sincèrement, enfin, certainement que c'est la raison, parce que ce n'est que une fois qu'on lui met devant les yeux tous les témoignages des gens que nous avons recherchés, que là elle se libère et qu'elle parle. Et surtout après la première visite qu'elle va faire à Barcus, parce que nous l'amenons à Barcus. Elle est dans l'émotion la plus complète et franchement, c'est un des plus beaux jours de ma vie d'avoir pu ramener, d'avoir vu l'émotion de ma mère ce jour-là. Enfin, elle était légitime là. Et je pense que se taire pendant toute cette période et garder ce silence, ça a dû être terrible. C'est pour ça qu'elle voulait pas nous parler. Alors après elle se libère, après elle raconte. Mais elle nous dira, mais moi, vous avez dit, elle a des enfants. Oui, en 43, quand mon père est brûlé et qu'il est obligé à son tour de passer en Espagne, elle a une petite fille de 13 mois et elle est enceinte de 7 mois. Et là, ce jour-là, ce 23 juin 43, elle est prévenue par un chef du réseau haut placé à la préfecture qui vient et qui lui dit vite, vite, il faut partir, la Gestapo va arriver. Et alors là, bien évidemment, en femme brave, en voulant faire son devoir, eh bien, elle va se laisser prendre en main, se laisser exfiltrer, elle ira accoucher à Toulouse dans une clinique clandestine sous un faux nom. Et elle passera 18 mois à attendre ce fameux signal que mon père lui avait promis de lui donner. Tu écouteras la radio et sur les ondes, si tu entends les cheveux de Michel poussent, ça voudra dire que je suis en vie.
Et elle va entendre ce message. Voilà. Et elle va entendre ce message. C'est ça qui est très émouvant dans votre livre, voilà. Annie Loizabal, le passeur, oui. Là aux éditions Confident. Moi, c'est un livre qui m'a énormément touché parce que bon, c'est un livre aussi d'ici, hein, ça se déroule dans les Pyrénées-Atlantiques, hein, donc sur un endroit qui est là. Moi, j'ai une question. Ce récit que vous avez fait, Annie Loizabal, le passeur. Là, on a parlé de vos parents, on va parler des générations qui suivent, vos enfants. Est-ce que c'est pour eux que vous l'avez fait, pour qu'à un moment donné, cette mémoire soit conservée et cette volonté, à un moment donné, de transmission? Est-ce que c'est ça qui a été à l'origine de l'écriture de votre récit?
Alors, au tout départ, non, j'ai voulu aller à la rencontre de Michel, puisque je ne connaissais que papa, qui était tout un autre personnage. mon père était voilà, un père très très strict, très voilà, très simple, très strict, oui, je reviens sur ce mot, voilà, et je découvre, enfin, les gens découvriront dans le livre qu'il était un petit peu fêlé, comme on dit, hein, parce que il avait peur de rien, et voilà, il croyait, il était sûr de réussir, et il a foncé tout le temps. Donc, voilà, que
rajouter d'autre par rapport à ça. Alors, on a appris une chose aussi dans votre récit que moi j'ai découvert. Je m'étais toujours posé la question de savoir comment on passait les Pyrénées, notamment quand il neigeait, quand il y avait du gel. Et puis on apprend que tous les passeurs faisaient passer les Pyrénées en chaussant des espadrilles.
Oui.
Ce qui n'a pas manqué, moi, de me surprendre, je vous avoue, parce que c'est vrai que quand je fais de la montagne, je fais de la montagne avec des chaussures de marche qui puisaient dans la neige. Alors, moi, je connais la raison, mais je voudrais que ça soit vous qui nous l'expliquiez, la raison pour laquelle les passeurs chaussaient des espadrilles et faisaient chausser des espadrilles aux gens qu'ils faisaient passer. Allez-y, Annie Ouattabal. Voilà.
Alors, pas pour toutes, ils faisaient chausser les espadrilles, pas pour tout le chemin. Hein. Je découvre dans les témoignages m'apprennent que suivant le groupe qu'il avait, soit il avait un petit groupe que j'appelle actif, c'est-à-dire les témoignages nous apprennent qu'il met les alliés qui sont jeunes, costauds, entraînés, et puis les jeunes qui filent le STO. Ils étaient la veille chez maman, ils ont mangé, ils ont même pas 20 ans, bon, ils sont solides, on peut leur en demander. Là, ils vont passer en deux nuits, mais parce qu'il les fait passer par le pic d'Ory. Et au pic d'Ory, il sait qu'il ne peut pas emmener tout le monde parce qu'il y a une petite barre rocheuse qui n'est pas très importante, mais qui est très dangereuse. Et les trois quarts du temps, quand il arrive à cette barre rocheuse, elle est verglacée. Et certainement que ce n'est pas mon père qui a inventé, qui a eu cette astuce. Je suppose que les passeurs devaient se passer toutes ces astuces-là, les partager. Et bien, à un moment donné, à la dernière cabane de berger qu'on appelle Caillolard, juste avant d'arriver, il est fait déchausser et mettre des espadrilles que, bien évidemment, un complice, un berger, aura porté régulièrement, voilà, plusieurs pointures, des dizaines de paires d'espadrilles, parce que l'espadrille, on est en 43. Donc ça ne vient pas, c'est pas Made in China, hein, c'est fabriqué à Mauléon, avec de la vraie corde. De la vraie corde, donc, et cette corde, elle colle quand on met le pied sur la barre rocheuse, ça colle. Et ils nous décrivent dans leur récit, on est obligé à chaque pas de tirer parce que ça colle. Et c'est comme ça, ça leur sert de crampon en définitive.
C'est une astuce. Alors moi, je l'ai découvert, hein, je l'ignorais totalement. Et je dois vous avouer que quand je l'ai lu, je me suis dit ça. Voilà, il faut vraiment en parler, effectivement, au niveau de l'interview. Philippe Supercaz a une question à vous poser. Allez-y, Philippe.
Oui, bien sûr.
Voilà, vous parlez beaucoup de votre père, hein, de Michel, comme vous le dites.
Oui.
Mais c'est aussi une histoire de couple, parce que on mettait... voilà, l'homme aurait pu, ou le chef de famille aurait pu, effectivement, c'est ce qu'a fait votre papa, vouloir bien porter aide, mais c'est toute une famille qu'on met en danger, parce que lorsque la Gestapo débarque, elle ne faisait pas la différence entre le papa et le reste de la famille. Et donc, c'est aussi une histoire de couple. Et donc, votre maman aussi a accepté. Et elle est partie aussi en exil pendant quelque temps à Toulouse, vous l'avez dit. Là. Je découvre, parce que je n'ai pas lu le livre, mais coup de chapeau aussi à votre papa, bien sûr, mais aussi à votre maman.
Mais ces hommes-là, dont, l'éditeur a voulu que je marque le mot « héros » sur la couverture. Oui, oui, bien sûr, mon père a été un héros, oui. Mais parmi tant d'autres. Mais ces hommes-là, qui c'est qui les porte toujours? Eh bien, c'est les femmes.
Oui.
C'est les femmes. Sans les femmes qui étaient des agents de liaison exceptionnels sur leur petit vélo, qui portaient des messages « Attention, tel chef a été pris pour que l'équipe se mette au vert, vous allez avoir un parachutage tel jour, tel endroit. » Ces femmes qui, par exemple, quand les groupes étaient la journée, puisque ne marchaient que de nuit, quand ils étaient la journée cachés dans des granges, ces femmes-là allaient leur porter, pas des plateaux repas, non, mais la soupe avec du pain trempé ou du lait avec du pain. Ces femmes-là mettaient un torchon à une fenêtre pour signaler le passage est libre. S'il n'y a pas le torchon, ça veut dire que les Allemands sont dans le village ou dans le village à côté. Voilà. Ces femmes-là dont on n'a pas parlé, c'est les grandes oubliées de cette période.
Il y a eu, puisque vous en parlez, Annie Loisabel, puisque vous en parlez, c'est vrai que quand on regarde durant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu beaucoup d'hommes décorés à l'issue de la libération. Il y a eu très peu de femmes décorées. Et j'ajouterai qu'on a tondu des femmes, on n'a jamais tondu d'hommes.
Non.
On aurait pu tondre des hommes, hein, puisque il y en avait qui... Voilà. Mais on a tout le temps reporté ça sur les femmes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que les historiens, et notamment Robert Paxton, hein, qui est cet historien américain spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, a effectivement mis en lumière dans ses travaux, par rapport à ce que vous disiez, Philippe Subercase, donc vraiment ces femmes... Voilà, qui ont été des héroïnes, alors qui n'ont pas participé au combat, etc. Mais effectivement, comme vous le disiez, Annie Olazabal, qui ont passé des barrages, qui ont porté des messages et qui risquaient leur vie autant que les hommes.
Qui risquaient leur vie, voilà, mais bien sûr.
Et qui faisait vivre la famille, parce que c'est vrai que les hommes, bon, ils étaient au combat ou ils étaient en train de passer, mais il fallait regarder. Vous nous dites bien que votre maman avait un enfant, elle était enceinte, elle a dû partir et puis elle a dû gérer tout ça, le quotidien. Et c'est vraiment des actes aussi héroïques d'avoir fait ça et d'avoir accepté aussi, parce que voilà, on entraîne la famille dans une décision comme ça, toute la famille, enfants, femmes, et c'est vrai qu'il faut aussi que la compagne accepte.
Voilà, et c'est pour ça que moi je recommande vraiment Annie Loisabal, donc la lecture de votre récit, donc aux auditeurs et aux auditrices de présence d'un jour un livre en auteur, qui écoute nos chroniques littéraires depuis 11 années maintenant.
Et on va saluer bien sûr nos amis basques, parce qu'avec un nom comme ça, on a bien compris que c'était au Pays Basque.
On a compris que oui, voilà. C'est... Effectivement, quoi, ça c'est typiquement un nom basque, on n'a pas besoin de le dire. Hein, Annie Loisabal, le passeur, ce héros de la résistance qui a conduit 953 personnes en Espagne. Le terme héros, comme vous le disiez, c'est votre maison d'édition, donc les éditions Confident, qui ont souhaité le mettre effectivement donc sur le bandeau.
Et on voit sur la couverture le portrait de votre papa.
Le visage, un visage dur, on voit bien que c'est une photo qui est prise pendant la guerre. Vous le mettez donc à l'intérieur, qui est prise donc durant la guerre. Alors on voit qu'il n'a pas beaucoup de cheveux, c'est pour ça que le message c'était Michel a les cheveux effectivement qui poussent.
Voilà, les cheveux de Michel poussent, voilà. Vous voulez dire qu'il était vivant. Mais puisque vous avez lu le livre, vous avez pu voir que la période espagnole, c'est-à-dire à partir du 23 juin
1943,
Il n'est pas plus malin que les autres. Il se fait prendre et il va être interné à Uberuaga de Ubilla. 2 mois après, il s'en évade. 2 jours après, on le retrouve à Madrid. Mais là, il va travailler pour le Bureau central des renseignements et d'action, le BCRA. Et il va faire toute une autre mission. Mais là, il va travailler... avec une identité espagnole, il a des vrais faux papiers et une perruque. Il va faire Madrid-Toulouse pour aller chercher des hauts chefs. Il passera entre autres le neveu de De Gaulle, des ambassadeurs, des courriers.
Ce que je vous propose, c'est que effectivement le temps qui nous est imparti est arrivé. Est-ce qu'on peut faire une deuxième émission avec vous la semaine prochaine?
Avec plaisir.
C'est-à-dire, voilà,
et on vous retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une autre émission, et parce que le sujet est tellement intéressant, vous allez nous raconter un peu. J'aimerais qu'on rentre aussi dans les coulisses. Philippe Nonny, vous qui avez lu le livre, un peu de toute cette organisation, voilà, des résistants, comment devenir résistant, comment lui, il a peut-être été approché pour qu'il le devienne, et puis prendre aussi à un moment cette décision qui emporte toute la famille. Je vous propose, mon cher Philippe Nounis, si vous le permettez,
oui,
bien sûr, de se retrouver, et mon cher Diego qui reviendra.
Je pense qu'il faut y consacrer avec deux émissions.
Avec grand plaisir. Et puis en plus, on parle de l'Espagne, alors là, Diego, il est tout oreille.
Oui, Diego Arabat, à côté de moi, voilà, vous avez compris aussi que...
On se retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Un jour, un livre, un auteur. Philippe Nonni, Philippe Subercase. L'actualité près de chez vous, c'est aussi sur Internet, radioprésence.com et sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Présence à Mirande, 104.2.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Le Moyen-Orient à nouveau sous les feux, avec ce matin notamment l'Irak.